les autres voix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Bonjour, aujourd'hui pour les autres voix de la presse, une émission un petit peu spéciale puisque nous allons vous présenter et non interviewer le média La Grappe, un média principalement en ligne mais qui publie également une fois par an un recueil papier, un média donc qui est sur Bordeaux. Ce média fait partie du réseau Mutu dont nous vous avons déjà quelques fois parlé. Donc avant d'aller plus loin avec La Grappe, ce média bordelais, une petite présentation du réseau Mutu suite à un article publié en mai 2026. 13 ans après son lancement, l'existence du réseau Mutu nous semble toujours aussi pertinente, peut-être plus que jamais, et nous sommes déterminés à continuer de le faire vivre et de le défendre. Facebook vieillit, Insta commence à décliner, quand le réseau Mutu voit passer les modes et traverse les époques avec panache. En 13 ans, le réseau Mutu est passé de 4 à 22 sites. Aujourd'hui, c'est environ 100 000 visiteurs et visiteuses par jour, c'est des serveurs qui craquent tellement vous étiez nombreux à consulter nos sites le 10 septembre dernier. C'est plus d'une centaine de personnes qui s'activent derrière les écrans, plusieurs générations qui se sont succédées, des sites qui ont fermé, certains qui ont réouvert avec des nouvelles équipes, d'autres qui naissent chaque année. C'est surtout des dizaines de milliers de personnes qui ont fait vivre ces sites en y publiant des articles. Pourtant, ces dernières années, il nous est régulièrement arrivé de nous questionner sur notre modèle. Avec la montée de l'utilisation des réseaux sociaux dans le milieu militant, nous nous sommes demandé plus d'une fois si nos sites avait encore un avenir, en voyant de plus en plus de collectifs se détourner du réseau Mutu pour réserver leur communication à Instagram. Nous comprenons pourquoi des collectifs décident d'investir les réseaux sociaux. La mainmise croissante de l'extrême droite dans les médias traditionnels nous étouffe. Alors qu'il y a 10 ans, il était déjà assez rare que les médias mainstream parlent de nos luttes, cette invisibilisation est aujourd'hui doublée d'une promotion décomplexée pour les idées les plus réactionnaires. Dans cette ambiance médiatique, beaucoup de collectifs ont investi massivement les réseaux sociaux pour communiquer et mobiliser, ce qui a clairement participé à augmenter la notoriété de discours minorisés, y compris dans certaines sphères militantes. Dans le réseau Mutu, certains sites ont décidé de les investir, d'autres non. Individuellement, nous sommes nombreux et nombreuses à les consulter ou à les utiliser. Nous partageons avec les réseaux sociaux le fait que n'importe qui peut publier une information en quelques clics. Et nos sites sont donc souvent mis en concurrence avec ces plateformes par des potentiels utilisateurs, utilisatrices qui nous renvoient que, notamment vis-à-vis d'Instagram, nos sites ne seraient pas assez efficaces, pas assez accessibles, n'auraient pas assez de portée. Certains et certaines d'entre nous avaient donc envie de partager quelques réflexions au sujet des enjeux que l'usage des réseaux sociaux a des fins militantes et de remettre en avant tout le sens que l'on donne aux réseaux Mutu. Sur nos sites, nous tentons de rassembler et de visibiliser différentes pratiques militantes, différents points de vue, toujours dans une optique de nous renforcer les uns et les autres. Chacun, chacune peut y diffuser des informations de manière anonyme et sécurisée, y rencontrer des initiatives de lutte qui lui sont moins connues et y partager, nourrir des réflexions. Par le travail de modération, nous veillons à mettre en avant des informations qui témoignent d'engagements militants quotidiens, des fois moins spectaculaires et photogéniques que d'autres. Les contenus des sites du réseau Mutu sont modérés par des collectifs autogérés. La publication d'un article représente parfois des heures de discussion. Il est même arrivé que des mois passent avant d'avoir pu se mettre d'accord sur un texte. Les réseaux sociaux sont avant tout des empires économiques qui appartiennent à des milliardaires. Ils nous autorisent à publier jusqu'à ce qu'ils ne nous l'autorisent plus. Dépendre de nos ennemis à ce point-là nous paraît loin d'être enthousiasmant. Comme ailleurs dans le monde, en France, pendant les mouvements pour Naël ou en Kanaky, nous avons été témoins de la manière dont les réseaux sociaux et le gouvernement pouvaient s'entendre pour bloquer, influencer les contenus ou s'en servir pour identifier et arrêter des personnes. En plus de devoir s'inscrire nominativement sur ces plateformes et ainsi alimenter les bases de données de la surveillance généralisée, l'accès aux informations y est filtré par des machines au service des enjeux capitalistes. Ces fonctionnements algorithmiques nous échappent et nous posent questions à différents niveaux. Ces algorithmes agglomèrent, hiérarchisent, fragmentent ou isolent les flux de contenu d'après des règles et des logiques qui leur appartiennent et qui jouent, sciemment ou non, contre nous. Nous assistons alors impuissamment à la compartimentation de nos luttes. Celles-ci s'en retrouvent couramment invisibilisées pour les personnes non concernées et ou non initiées. Les réseaux sociaux nourrissent nos ambitions de visibilité à coup de likes, de nombre de vues. Ils favorisent les contenus viraux, valorisent les actions spectaculaires et nous transforment parfois en publicitaires des luttes. Dans la rue, nous pouvons légitimement questionner l'impact réel de ces outils sur nos mobilisations. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'être 50 à un rassemblement qui a été pourtant suivi des centaines de fois en ligne. Nous n'oublions pas non plus que les algorithmes des réseaux sociaux sont avant tout conçus pour créer de la dépendance. Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir fait l'expérience des conséquences mortifères de l'utilisation de ces réseaux sociaux sur notre santé mentale et de leur impact délétère sur nos capacités à interagir socialement hors des écrans. Nous constatons aussi que l'intensité des flux d'informations sur les réseaux sociaux nous fait perdre notre mémoire collective. Une fois postés, les contenus sont rapidement digérés et difficilement accessibles. De plus, les archives de nos activités ne nous appartiennent pas et peuvent disparaître au bon vouloir des propriétaires des plateformes. A l'inverse, les sites du réseau Mutu permettent de garder des traces de nos actions et de nos idées, car les archives de nos luttes constituent un moyen très concret de faire exister notre propre réalité face à la réécriture de l'histoire par les dominants, par les dominantes et les réactionnaires de tous bords. Malgré tous nos doutes et notre méfiance, on comprend bien que la nécessité stratégique de certains et certaines à rester actifs sur ces réseaux puisse persister. Mais nous sommes persuadés que des alternatives doivent continuer à être investies pour notre sécurité, notre autonomie et la pérennité de nos luttes. Pour faire lien autrement entre nous et entre nos initiatives. Le réseau Mutu et les sites qui le composent font partie des propositions qui vont dans ce sens. Nous savons que nos sites ne sont pas parfaits, que nos outils ne sont pas toujours les plus simples à utiliser ni les plus simples à consulter. Année après année, nous continuons à mutualiser nos expériences et nos savoirs pour les faire évoluer. Dans ce contexte de montée en puissance des politiques et des idéologies fascistes, nous pensons que continuer à faire vivre et à construire des médias autonomes est un enjeu clé pour la survie de nos luttes et de nos idées. Comme annoncé au début de cette émission, nous voulons maintenant vous présenter le média La Grappe, donc un média en ligne à Bordeaux, média donc qui publie une fois par an un recueil en version papier. Pour garder l'anonymat, les personnes qui s'occupent du site La Grappe donc à Bordeaux ne souhaitaient pas une interview par téléphone. Pour ce faire, nous avons donc envoyé quelques questions auxquelles les réponses nous ont été envoyées par email. Donc, première question, quelle est l'origine du projet La Grappe. Bordeaux et ses alentours manquaient pas mal d'une plateforme ou d'un média proposant une information sur les luttes, les événements militants et un relais sur ce qu'il se passait en France et dans le monde. Alors on s'est lancé dans l'aventure. On a vite décidé de ne pas prioriser les réseaux sociaux comme premier média, même si aujourd'hui on est sur Insta, notamment car on ne voulait pas dépendre de multinationales qui peuvent bloquer et fermer tes pages à chaque instant. Puis on s'est posé la question de la forme et pour tout ce que ça permet, pour l'aide dont on avait besoin, on a choisi le réseau Mutu. Pour ce qui est du réseau Mutu, effectivement, il y a des échanges d'articles qui permettent une grande diffusion en France sur un sujet. Ce sont souvent des articles de fond ou des appels à campagne d'action ou de manif nationale. Mais c'est aussi un réseau d'entraide et d'aide à la création de nouveaux sites pour rendre chaque localité autonome et armée pour mettre en place son site. Comment vous situez-vous à Bordeaux par rapport à Rue 89 ou Far West par exemple ? On ne parle jamais de ligne éditoriale en tant que telle, mais La Grappe se veut un média des luttes. Nos informations se centrent donc autour des événements et mouvements contestataires. Il y a une équipe de modération qui valide les articles proposés en fonction de la charte du site. C'est un site autonome, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de ne pas publier des articles des partis politiques ou des gros syndicats, qui ont leur propre réseau de diffusion et qu'on ne cherche pas à encourager particulièrement. On fait attention au biais de domination lorsqu'on publie un article, racisme, sexisme, validisme. Il nous est arrivé de reposter des articles de Rue 89 Bordeaux, ou du moins de nous appuyer sur leurs articles pour en faire d'autres avec leurs photos, par exemple pour le mouvement contre les retraites, pour imager un peu les articles que l'on publiait. Du coup, par rapport aux autres médias comme Rue 89, je dirais qu'on ne fait pas de taf journalistique comme eux. On ne se donne pas pour mission de rassembler toutes les infos possibles, mais celles qui ne sont pas mises en avant par les journaux classiques. Donc on n'a pas à se poser la question de notre ligne. Mais je dirais quand même qu'on représente une tendance large du spectre politique autonome, de l'ultra-gauche, comme diraient les politiciens en cravate, des luttes féministes antiracistes, de l'écologie politique radicale, etc. Je vous invite donc à jeter un œil pour vous faire un avis. Je n'aime pas trop nous enfermer dans des cases. Sur le site Tout le monde peut publier, y a-t-il une modération ? Oui, tout le monde, et oui, bien sûr, il y a une modération. On fait attention aux sources lorsqu'un article nous paraît affirmer des choses que l'on trouve étonnantes. Et comme évoqué avant, On permet une anonymisation des personnes qui publient, car contrairement à beaucoup de journaux, tout le monde peut se créer un compte avec un VPN et une boîte mail temporaire sans avoir à renseigner quoi que ce soit sur son identité. Ça nous paraissait essentiel de pouvoir publier des choses illégales, d'être un relais d'action, que l'on puisse appeler à des manifestations, déclarées ou non, ou publier des revendications d'action, voire même de sabotage, sans se mettre en danger. Du coup, le rôle de la modération est aussi de s'assurer que le site ne se fait pas pirater ou que les adresses e-mail qui revendiquent des choses soient un minimum anonymes. Il nous arrive de refuser des articles parce que des noms y apparaissent ou parce qu'ils frôlent les limites de la charte. Des sujets prioritaires en lien avec l'actu ou pas ? Oui, on fait en sorte d'avoir toujours en première page des événements locaux, un agenda rempli et des articles de fond sur des situations nationales, internationales. À quelle fréquence publiez-vous ? Tous les jours, à peu près. Est-ce que vous publiez uniquement des informations du Bordelais ? Alors non, on publie vraiment sur plein de sujets d'actualité. Si vous allez sur le site, vous y trouverez un volet déroulant des rubriques locales, aller ailleurs, actualité et thématiques, féminisme, appel, antimilitariste. On n'a pas uniquement des informations bordelaises, même si, comme vous pouvez vous en douter, elles sont quand même très présentes. Donc on a de tout en fonction des situations et parfois une thématique est plus présente. On fait en sorte d'avoir une grosse proposition d'informations sur ce qui se passe en local. Mais par exemple, lors du génocide à Gaza ou de l'attaque du Kurdistan, on avait des articles de fond sur la situation, des appels en Gironde et des articles nationaux et internationaux qui racontaient les mobilisations un peu partout dans le monde. Autre exemple. Pour les soulèvements de la Terre, nous avons été très réactifs lors des mobilisations contre les LGV du Sud-Ouest, tout en ayant des articles et d'autres actions en France, ainsi que des articles critiques. On essaye de faire vivre un peu toutes ces luttes, mais c'est aussi très dépendant de ce qui nous est proposé. Par exemple, on essaie de mettre en avant le féminisme radical, ce qui n'est pas évident dans la plupart des médias. Mais pas toujours dans le nôtre non plus, on a du travail quoi. Pourquoi avoir décidé de publier un numéro imprimé par an ? Car on tenait au format papier, un peu pour l'objet, tu vois, être content de faire un bouquin ensemble, choisir les articles qui nous paraissent le plus refléter l'année, sérigraphier les couvertures à la main, pour que la grappe sorte un peu du numérique et se passe de main en main, s'offre et se relise des années plus tard en se disant « Purée, ouais, c'était quelque chose le mouvement des retraites à Bordeaux, tu te souviens que la porte de la mairie a cramé ?» Des trucs comme ça. Comment s'opère la sélection des articles imprimés au vu de la masse éditée sur le site ? C'est finalement pas si compliqué, bizarrement, au vu du nombre d'articles qu'on a publiés en un an. En fait, on s'est dit qu'on devait mettre un article sur ce qui nous paraissait être les thèmes qui nous animaient, qui passent habituellement inaperçus. Donc on a regardé, et on s'est proposé lesquels articles qu'on voulait voir. Puis on y a ajouté notre patte en faisant les éditos de chaque article pour les recontextualiser, ce qui effectivement donne cette impression d'être entre l'information et le pamphlet politique. Mais pour nous, je ne l'ai pas dit avant, c'est un pari politique de tenir ce site. C'est long, pas évident tout le temps, mais quand tu vois que t'es cité par d'autres journaux, que les gens se bougent parce qu'ils ont vu l'info sur la grappe ou que CNews nous crache dessus, on s'est dit qu'on fait pas ça pour rien. Comment diffusez-vous la grappe ? Dans les librairies du coin, sur des stands de marché, par des graves dans la ville et par voie postale, mais surtout, ça se diffuse parce que les gens en parlent. Donc n'hésitez plus, armez-vous de vos plus belles peintures ou affiches et tartinez la ville sans ménagement ou parlez-en dans vos repas de famille.
Les autres voix de la presse, c'est la meilleure émission de toute la vie. Du monde entier.
Merci papa.
Merci papa.
Pour finir cette présentation du média La Grappe, donc média indépendant en ligne et en version papier à Bordeaux, le numéro 2 qui est paru ce premier semestre 2026, donc allez, un petit tour dans le sommaire. Tout d'abord, Bordeaux ma ville, Urmic à la mairie, ne s'attendra à rien, quand même être déçu. Voilà 5 ans que Pierre Urmic est maire de Bordeaux. Le cirque des élections municipales approche de nouveau et l'occasion est trop belle pour ne pas réaliser le bilan de politicard cynique de celui qui, sous des airs d'écolo sympathique, n'a fait que renforcer la dynamique du tout répressif au sein de la ville. Ce n'est plus un secret pour personne que la fascisation va bon train. Au plus haut niveau de l'État, les politiques antisociales et les mesures répressives à l'encontre des mouvements sociaux, des minorités et plus globalement de tous les plus fragiles se renforcent et s'accentuent dangereusement. Si les 8 gouvernements qui se sont succédé depuis l'arrivée de Macron au pouvoir y sont pour une grande part, il ne faut pas oublier que c'est aussi grâce à l'agentivité de braves bonshommes comme Urmic que les politiques ordonnées en haut finissent appliquées sur le terrain. Publié dans l'été 2025, l'article suivant revient sur les différentes actions menées par Pierre Urmic lors de son mandat pour tantôt renforcer la police municipale, dégager des squats ou encore sur son entêtement dans le jumelage de Bordeaux avec la colonie israélienne d'Ashdod. Si selon la tendance générale du moins pire, Pierre pourrait paraître inoffensif, voire un allié, pour certains et certaines, cet article démontre qu'il n'est en réalité qu'un avocat opportuniste pour qui l'écologie est un choix de carrière parmi d'autres. Pour lui, au final, c'était un peu comme choisir au petit déjeuner entre thé, café ou chocolat chaud. On espère que la trace que laissera ce texte permettra à chacun de se souvenir ou pas de Pierre pour ce qu'il est. Autre dossier, toujours dans la grappe, donc internationalisme, discussion avec des membres de Les Peuples Veulent. Depuis plusieurs années, il ne se passe pas un jour sans qu'un peuple ne se révolte contre son gouvernement, ne se lève contre des forces armées pour combattre les inégalités, pour vivre au mieux ou simplement pour survivre. Depuis le début des printemps arabes de 2011, mais aussi du Soudan à Hong Kong en passant par le Chili et la France, les peuples veulent la chute du régime. Cette dynamique ne s'est pas arrêtée, bien que, dans certains pays, ces soulèvements aient fini en bain de sang, obligeant une partie du peuple à prendre les routes de l'exil. Un exil souvent difficile où, au bout du chemin, l'isolement et le racisme montrent le peu de considération que portent les dirigeants des pays d'accueil aux populations concernées. Face à ces difficultés, des réseaux d'entraide communautaire sont souvent des piliers pour de nombreuses personnes. Les peuples veulent est une tentative internationaliste d'entraide et de support des peuples révoltés. Contrairement à un classique internationalisme de parti dont les liens fluctuent selon les aléas des régimes en place, ici, cette dynamique s'appuie sur des rencontres plus profondes qui cherchent à s'inscrire dans un temps long. La volonté est de créer des connexions réelles entre toutes les personnes qui souhaitent renforcer ce réseau. En France, les peuples veulent se sont lancés autour de la cantine syrienne à Paris et ont organisé plusieurs rencontres, dont une publique à Marseille en 2024. Deux membres, l'une kurde iranienne et l'autre française du Limousin, nous racontent comment ils et elles en sont venus à écrire un manifeste internationaliste appelant à la création de ce réseau dans lequel ils et elles affirment et détaillent leur base politique et leur lien avec des peuples révoltés, ainsi que toutes les questions que cela pose. Ils et elles sont passés à Bordeaux pour parler des impérialismes du point de vue des peuples révoltés, d'exil comme violence ou nécessité, et de réseaux d'exilés et de solidarité comme force révolutionnaire. On continue de tourner les pages. Prochain dossier, féminisme au pluriel, lettre ouverte à mes camarades les hommes. Cette courte lettre nous fait voyager dans les réflexions d'une militante antifasciste qui questionne son milieu, ses prises de position, ses amis hommes, ceux qui cherchent à changer, mais aussi les autres. Publiée en avril 2024 sur le site, elle s'adresse aux hommes cisgenres. Elle fera, nous en sommes sûrs, finalement écho à tout un tas de personnes, aussi et surtout aux sexisés qui peuvent facilement se sentir isolés. Comment parler à nos camarades des oppressions qu'ils exercent sur nous? Comment se détacher du sentiment de responsabilité vis-à-vis de leur comportement avec les autres personnes sexisées? Comment se sentir puissant, puissante dans nos luttes? Le poids du changement qui ne vient pas est deux fois plus lourd dans les milieux politiques. D'abord parce qu'on le subit directement. Ensuite parce qu'on attend de nous d'éduquer nos potes hommes, parce qu'en s'organisant avec eux, on les soutient, on les valide et parfois même on leur sert de caution féministe. On peut reconnaître un certain courage à ceux qui s'engagent dans ce parcours long et épineux. Ils le traverseront avec notre aide ou sans, car rien n'oblige à continuer de s'organiser ensemble partout et en tout temps. Mais le féminisme n'est pas seulement une affaire de lutte interne aux groupes politiques, c'est un espace depuis lequel se pensent les bouleversements et révoltes globales. Si le genre est un champ de force fondamental de nos existences, un rapport de domination constitutif de ce monde, c'est donc un espace de lutte vital pour nous toutes. L'analyse féministe est nécessaire en tout endroit de lutte, qu'on s'oppose aux fascistes, aux industries mortifères, à la police, à la prison, etc., etc. Parce que l'oppression des minorités de genre nourrit toutes les autres et s'en nourrit en retour. Page 48, contre les frontières, le collectif anti-expulsion, combattre la mécanique de l'expulsion en France dans les années 1990. À la grappe, on aimerait contribuer à sortir de la sidération face à l'intensification des mesures anti-immigration. Nommer et analyser la situation, historiciser un système qui grandit depuis plus de 20 ans, voilà ce qui semble être la première étape pour lutter efficacement contre le racisme d'État. Cet article nous permet de relier les récentes rafles spectaculaires de l'ICE aux États-Unis et non moins médiatiques en France face à une longue histoire des expulsions. Cette machine implacable française s'est durcie dès les lois Pasqua en 1986 et n'a fait qu'empirer pendant une décennie. Face aux vagues d'expulsions massives des années 1990, la résistance s'est déjà organisée et a tiré des conclusions qui pourraient nous être utiles aujourd'hui. Au cœur de leur démarche, à l'instar du mouvement de résistance aux expulsions des USA, le désir de s'impliquer concrètement, de ne plus réclamer, au mieux de les empêcher d'agir, au pire de les ralentir. L'article qui suit fait le récit d'un des modes d'action du collectif anti-expulsion, le blocage massif de gares, espaces de transit complémentaires des aéroports, plus accessibles, moins surveillés. Il a été écrit depuis les États-Unis, puis traduit en français par nos soins, dans une envie de se relier au niveau international, de se soutenir et s'inspirer. Suite du sommaire, donc page 64, sabotage, revendication d'action. Au cours de ces deux dernières années, nous avons régulièrement reçu des revendications d'action, que ce soit dans le cadre de mouvements de lutte larges, à l'image de celles contre les CRA, à l'occasion d'événements qu'il ne faut pas laisser en paix, comme le salon du drone, ou encore lors du mouvement social, comme celui du 9 septembre. Force est de constater que les actions directes, discrètes, de nuit, sont partout. Bien qu'inscrit dans une longue tradition militante et anarchiste, la multiplicité de ces gestes et de leurs cibles témoigne d'une popularisation du sabotage, que des groupes, individus ou mouvements en réalisent de plus en plus, y compris au cœur de mouvements de rue, est la preuve d'un besoin partagé de rentrer en confrontation avec le pouvoir. Nous prenons acte avec plaisir que toutes les personnes impliquées dans des luttes recherchent les moyens nécessaires à leurs actions. Nous avons vu ici des bâches lacérées, là des machines incendiées, de la peinture projetée, de la colle dans les serrures, des pneus dégoulinant d'essence. La manière importe moins que la joie que ces nouvelles procurent. Parfois, ces faits sont revendiqués, pas toujours. Parfois, une seule âme suffit, quelquefois plusieurs dizaines sont nécessaires. Mais dans tous ces gestes, une commune détermination. L'intensification de ces actions s'accompagne d'une complémentarité avec les mouvements populaires récents. Elles touchent directement les infrastructures économiques, retardent les chantiers, font exploser les coûts de sécurisation, conduisent à l'abandon de certains projets. Nous pensons qu'il faut se garder de tomber dans le registre martial que peut charrier ce type d'événement. Ce sont des gestes doubles qui tirent leur puissance d'un juste équilibre entre leur effectivité matérielle et leur résonance. On ne peut mesurer les actions sur une simple échelle de violence où le fait d'incendier une préfecture serait le Graal et de taguer un mur l'éco-cup. Si l'action directe déjoue toutes les lectures morales du logiciel citoyenniste, c'est qu'elle produit du sens au-delà d'elle-même, c'est-à-dire au-delà de son contenu strictement matériel. S'attaquer aux infrastructures en les sabotant, retarder un projet, c'est s'attaquer à l'impuissance dans laquelle nous place l'immensité de ce qui nous fait face. Les campagnes récentes des soulèvements de la Terre le démontrent. Lobby agro-industriel, Lafarge, NGE, autant de noms qui semblent initialement des monstres inatteignables. Ces actions ne détruisent pas seulement, elles clivent, forcent le positionnement, redéfinissent les frontières. Que cela permette à chacun chacune de ne pas perdre de vue que toujours les salauds ont une adresse. Banditisme, Noël Besse, une illustre bandite pourtant inconnue, François Besse, un flamboyant rebelle si discret. Que ne découvrons-nous pas sur la grappe ? Que des hors-la-loi parmi les plus célèbres de France viennent du coin, que les rues historiquement si calmes et policées de Bordeaux ont abrité des bandits sociaux dont la réputation et l'histoire imposent le respect, que la prison de Gradignan qui enferme nos frères et nos sœurs et dont les hauts murs nous toisent et nous désespèrent ne semblait n'être que du gruyère pour ces amoureux et amoureuses de la liberté et ces adeptes de la clandestinité. Elle et eux, c'est notamment François et Noël Besse, deux frères et sœurs nés à Cognac dans les années 40 et qui ont passé leur vie à braquer les banques, à s'attaquer à la police et aux prisons, à s'évader et à rêver d'une autre société. Si leur nom, surtout celui de François, est connu, c'est pour leur proximité avec Mesrine, mais aussi pour leur ténacité et leur intelligence. Pourtant, à la lecture de leur autobiographie difficile à trouver, on découvre une politisation rare, libertaire, radicale et un soutien au mouvement révolutionnaire colombien et aux prisonniers-prisonnières en lutte. C'est une époque où des ponts entre gangstérisme et extrême gauche existaient et où, à certains endroits, il y avait des partages d'idées et de pratiques. Il y a des enseignements à tirer de ces histoires du passé. À une époque où la surveillance, la répression et l'autoritarisme prennent chaque jour plus de place, il est toujours précieux de savoir rendre opaques nos communications, nos achats, nos expérimentations et nos projets. Il est nécessaire de penser la sécurité de nos déplacements et de nos modes opératoires lorsqu'il s'agit de retrouver de l'efficacité dans nos actions. La grappe, à sa modeste mesure, par le récit de lutte et de vie passée ainsi que par le partage d'informations concernant la sécurité numérique, en manif, en garde à vue, cherche à nourrir et à accompagner toutes celles et ceux qui veulent lutter contre les structures oppressives et injustes de la société par tous les moyens possibles. Lutte locale, donc dans ce numéro 2, version papier du média La Grappe à Bordeaux, lutte locale, où en est la lutte contre les lignes à grande vitesse du Sud-Ouest ? Un an après la grande mobilisation contre les lignes à grande vitesse, freinage d'urgence, la lutte se poursuit, multiple et discontinue, coordonnée mais surtout désordonnée. Certains et certaines ont pris le pli des recours juridiques, cadencés sur un agenda qui leur est propre, en fonction des périodes légales de coupe d'arbres ou d'étapes clés du projet, comme les autorisations environnementales. Ces recours sont basés sur la croyance en des décisions de justice qui pourraient acter la fin du projet, malgré les déconvenues qu'a connues la lutte contre l'A69. D'autres, tenant compte de la base impopulaire du projet, s'attellent à créer des liens dans le sud-ouest entre toutes les personnes révoltées contre ce système politique abscons, y compris via les points de rencontre que sont les occupations et les blocages. En effet, la lutte contre les LGV n'est pas une lutte en silo. Elle s'affirmait dès le début comme une lutte globale anticapitaliste, rappelant les priorités locales et les enjeux de société actuels. C'est notamment pour cette raison qu'encore récemment, le 10 septembre, les collectifs de lutte anti-LGV se mobilisaient aux côtés des ex-gilets jaunes pour occuper la gare d'Agen ou via des sabotages de lignes. Puis, ces collectifs sont peuplés d'habitants qui se mobilisent chaque fois qu'une opportunité se fait jour. L'article qui suit en fait le récit. Voici une dernière nouvelle réjouissante. Partout sur le tracé, les piquets plantés par les agents SNCF pour marquer le passage de la ligne et commencer les préalables aux travaux sont patiemment supprimés. De sorte qu'à l'instar de Sisyphe, la SNCF se verra contrainte de refaire son ouvrage chaque jour, inlassablement. La colère est visiblement un carburant plus durable que celui des finances publiques, surtout lorsque les sous-traitants, sous les vestes de chantier, se demanderont bientôt pourquoi travailler quand le monde s'organise pour mener la grève, alors que les actionnaires croient encore pouvoir s'en mettre plein les fouilles. Donc, si les politiques de région comptent sur 15 milliards d'euros qui tomberaient du ciel d'ici 2032 pour financer ce projet, nous n'avons rien à craindre du magma gouvernemental. Quand ça ne passe pas, ça déborde. Contre l'armement, la guerre se fabrique aussi en Gironde, page noire des fabricants de la mort. Une brochure publiée le 21 septembre 2025, après un travail d'enquête sur le complexe militaro-industriel et de référencement assez précis des structures impliquées. Nous avons fait le choix de publier cette brochure sans l'annuaire qui l'accompagne, trop long pour un format livre. Vous pourrez retrouver la brochure complète sur le site à partir de la thématique « Guerre anti-impérialisme ». Au regard des situations de conflit dans lesquelles la France arme tout un tas de forces, il nous semblait important de donner des billes de compréhension sur qui participe activement au commerce de la mort autour de chez nous. Ce travail se lie à une documentation pléthorique sur la question, élaborée depuis des années par des travaux militants et journalistiques importants. Important car c'est en connaissant le tissu dense et historique d'une des plus grandes puissances militaro-industrielles que l'on peut commencer à agir. Agir à notre échelle par le refus de la participation à ce commerce. Aux possibilités de faire fuiter des informations pour trouver des brèches et pourquoi pas s'engager dans une résistance plus massive et espérons-le plus effective. Ce n'est pas un nouvel espace de lutte qui apparaît depuis la guerre en Ukraine et les annonces de réarmement de l'Europe, du monde et de la possibilité d'extension de conflits à de plus en plus de territoires. Non, les outils, techniques et machines de guerre font partie de l'ADN du capitalisme, son identité la plus claire. La domination sur les colonies, puis sur les peuples en lutte sur le territoire français, est un schéma pensé et appliqué consciencieusement par les différents pouvoirs depuis le début du capitalisme pour son instauration et son maintien. C'est une continuité historique et donc un espace que nous devrions investir depuis longtemps. Et face à cette domination, les peuples se sont toujours organisés et rebellés. Nous continuons et continuerons à œuvrer aux révolutions des peuples contre les dominations. La grappe numéro 2 version papier Palestine, interview d'un médecin en mission à Gaza en juillet 2025. Depuis le 7 octobre 2023, aucune structure journalistique ou humanitaire n'a été autorisée à pénétrer dans la ville de Gaza. Les informations et les images qui ont circulé depuis ne proviennent que de sources déjà présentes dans l'enclave. Personne ne rentre, personne ne sort, ou presque. L'ensemble du génocide mis en œuvre par Israël a pourtant été largement documenté, mais les témoignages de première main en France se font rares, et il nous a donc semblé indispensable de réaliser un relais médiatique de celui-ci. Voici l'interview d'un médecin tout juste revenu de la bande de Gaza. Et enfin, dernier article contre-histoire, un vandaliste à la retraite. La grappe s'efforce de faire émerger ce que les murs de la ville ont en mémoire, peut-être dans un souci de nous croire éternels, autant que pour donner du courage et de l'inspiration, nous espérons, par la publication de ces récits du passé, apporter un miroir à nos pratiques et un écho à nos discussions. Après la tentative d'une commune bordelaise sous l'égide de Paul Lafargue en 1871 et une traversée du joli mois de mai 68 dans cette ville, nous plongeons, par la parole d'un homme, dans les errements d'une bande de jeunes effrontés à la recherche de situations, de Péberlan à Saint-Michel, en passant par un Mériadec encore vivable et vivant des années 60. Et c'est à ça que l'histoire nous sert. Elle nous rappelle au mouvement de la société. Elle nous donne à voir ce que la marche du monde renferme de possibilités, autant qu'elle en ouvre d'autres. Par cette bande d'amis, les vandalistes, qui avaient leur rage et la provocation à offrir à la subversion, nous saisissons une époque charnière où la promesse d'un monde nouveau, et surtout d'un ancien à mettre à la poubelle, transporte les énergies d'une jeunesse qui ne veut plus se laisser faire et préfère se construire en dehors, toujours contre ce qui tente de l'assujettir, le travail, la politesse, la loi, la morale et bien d'autres. Ce récit nous parle aussi de la suite, de la vie qui continue, pour tous ces personnages qui n'ont pas été les têtes de gondole que l'histoire retiendra, et des négociations avec un futur devenu présent, que certains et certaines appellent compromission, pendant que d'autres parlent de contraintes, de logique qui nous rattrape ou d'épuisement. Quelle place tient la puissance d'un dévoilement politique dans une vie, et comment existe-t-il jusqu'à la fin ? C'était les Hautes Voix de la Presse avec le média bordelais et la Grappe. Prochain rendez-vous en septembre. D'ici là...
Où va se diriger ton stylo ? Où va se diriger ton stylo ?